midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche. Je reçois aujourd'hui Mina Namous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes là pour nous parler d'un premier livre. C'est vraiment votre premier livre ? Il n'y en a pas un autre dans les tiroirs ? C'est vraiment le premier livre que vous ayez écrit ?
C'est le tout premier.
D'accord.
Absolument pas d'autres livres dans les tiroirs.
Parce que souvent, les gens qui viennent parler d'un premier livre, ils en ont un ou deux qui n'ont pas été édités, qu'ils ont envoyés.
Ah non, c'est le tout premier qui a mis du temps à être édité et qui aurait pu rester dans les tiroirs, mais voilà, qui finalement a pu sortir.
Bon, ce premier livre dont vous venez de nous parler s'appelle « Amour extérieur nuit ». L'éditeur, c'est Dalva. À quoi le titre de votre livre fait-il référence ?
Alors, il fait référence à l'ambiance un peu cinématographique d'Alger. Je crois que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre. Il y a une ambiance très romanesque, très cinéma, et on voulait que le titre transcrive un peu cette atmosphère.
D'accord, c'est plus un univers de cinéma que vous faites référence, finalement.
Oui, finalement, oui. Ouais. Oui. Et puis beaucoup de scènes en extérieur, beaucoup de scènes de nuit.
Le pitch de votre livre. Bon, je vous provoque exprès, hein, je cherche. Sarah, pas encore trentenaire, tombe amoureuse de Karim et croit encore que les hommes mariés quittent leur femme. Est-ce que ça vous va comme pitch ou j'exagère ?
Je pense que vous exagérez, que vous savez que vous exagérez. Je crois que Sarah se fait pas d'illusions, hein. Elle attend pas tellement qu'il quitte sa femme.
Non, mais c'est une question en tout cas que lui renvoient les autres. C'est que finalement, est-ce que ça se fait d'être la maîtresse d'un homme marié ? Et ça, c'est une question quand même que son entourage lui pose pour celles et ceux qui savent. Hein.
Alors,
elle n'hésite pas une seconde, c'est pas du tout un frein.
Non, c'est pas un frein. Alors justement, toute la société lui renvoie ça, cette interdiction et la question de son âge, plein de choses. Mais elle, non, elle y va, elle se pose pas la question, elle tombe amoureuse et peu importe qu'il soit marié ou pas, elle tombe amoureuse d'un homme, pas d'une situation.
Mmh. Mmh. Mais paradoxalement, c'est-à-dire qu'avant de rencontrer le loup... Elle le dit, hein.
Oui.
Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette expression.
Elle le dit, en effet.
Voir le loup.
Ouais.
Non, elle dit même qu'elle veut se le taper.
C'est vrai aussi, ouais, c'est vrai aussi. Ouais.
Pour une fille, c'est quand même...
C'est une femme libre.
Oui, non, mais elle est très libre.
Elle est très libre,
bon.
C'est une femme libre.
Donc, avant de rencontrer le loup, comme elle fait des recherches sur lui sur Internet, elle tombe sur... les réseaux sociaux de sa femme, donc elle sait qu'il est marié.
Oui, elle sait qu'il est marié. Alors ça la contrarie un peu quand même, quand elle découvre qu'il est marié. Mais après, voilà, l'attirance est telle que ce n'est pas un frein.
Mmh. Vous avez décidé de situer l'action de votre livre en 2013. Alors bon, 2013, c'était il y a très très longtemps, hein. Bouteflika était encore président de la République. On pouvait encore acheter des DVD à Alger et on voyageait encore sur Aigle Azur.
C'est vrai.
Une autre époque.
Oui.
Pourquoi avoir choisi cette année 2013 alors que finalement les années d'après avec l'Irak étaient presque plus romanesques ?
Alors c'est un peu un hasard le choix de l'année 2013. J'ai aussi voulu situer l'histoire à une période où j'étais à Alger parce que les années du Hirak, moi je n'y étais pas. En 2019, je n'y étais plus. Et j'avais à cœur quand même de décrire l'atmosphère, même, parfois je cite des restaurants, d'être sûre qu'ils existaient toujours, qu'ils étaient encore là. Donc je voulais décrire une atmosphère que moi-même j'ai connue. Voilà. Et donc après, ça aurait pu être un peu après parce que j'ai quitté Alger plus tard, mais... J'ai bien aimé les années 2013, 2014, 2012. Donc
mais c'est
je me suis
fou
dit,
ça, parce que vous êtes la première que j'entends dire ça. qui ont aimé ces années-là à Alger.
Après, oui, c'est des choix personnels. C'est un peu du hasard aussi. Hein. C'est venu comme ça. Ça se déroule au mois de février 2013.
On va dire sur 18 mois à peu près.
À peu près.
Ouais. En gros.
Ouais. 2013-2014, oui.
Alors qu'est-ce que la vraie vous étiez parti faire à Alger ?
Alors la vraie moi est repartie, non pas que Sarah soit la fausse moi, est repartie à Alger pour travailler là-bas en 2010. Donc,
vous êtes juriste. Hein.
Je suis juriste et donc j'ai exercé là-bas en tant que juriste. Et voilà, donc j'ai redécouvert une Algérie que moi j'avais quittée un peu adolescente.
Parce que vous avez grandi en Algérie.
J'ai grandi en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je l'ai quittée pour mes études, donc je suis arrivée en France vers 18 ans. Et donc je repars à Alger, j'ai peut-être 25, 26, je me souviens plus, mais adulte, et donc avec un autre œil, et voilà. Donc
et vous faites le choix à ce moment-là de retourner travailler à Alger, ou on vous envoie en disant tiens, c'est toi qui vas y aller parce que tu connais bien ?
Ah non, non, je fais le choix, j'ai pas été envoyée par une entreprise ou quoi que ce soit, j'ai fait le choix d'y aller, et c'était chouette, c'était très chouette.
Et vous êtes revenue ?
Et je suis revenue.
Alors, il y a très... enfin... il n'y a pas tous les détails dans votre livre, et j'imagine que vous le faites exprès. Par exemple, bon, elles habitent, parce qu'elle habite avec sa mère et sa grand-mère.
Oui.
Bon, c'est une maison de femme. Elles habitent dans un quartier extérieur d'Alger que vous ne nommez pas.
Non, il n'est pas nommé, mais de mémoire, il y a quelques clés. À un moment, elles traversent une route qui s'appelle Cheraga. La route de Cheraga, donc on peut deviner que c'est Cheraga, ou en tout cas des quartiers mitoyens. Mmh. Et encore une fois, c'était pas un choix. Il y a beaucoup de hasard dans le livre.
Non, parce que vous nommez le reste.
Oui, je nomme le reste.
Vous nommez alors, le reste, ouais. surtout quand elle est avec Karim et qui se balade, et surtout la nuit à Alger, vous nommez précisément les endroits où ils vont.
Oui.
Donc, mais vous ne nommez pas où elle habite. Comme on sait qu'elle est originaire d'une ville de l'Est, mais la ville de l'Est reste la ville de l'Est.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bah, mais pourquoi, pourquoi pas dire, bah, finalement...
Bah, j'aime bien l'idée que, en fait, cette ville de l'Est, ça pourrait être n'importe quelle ville de l'Est, parce que beaucoup se ressemblent, on peut avoir des souvenirs communs avec d'autres personnes, et de pas forcément l'identifier, ça pourrait être n'importe quelle ville de l'Est, ou même de l'Ouest, hein, de l'Algérie, ou toutes ces villes balnéaires qui se ressemblent un petit peu, où on a des ambiances un peu similaires, et... Et voilà, et puis le plus important dans leur histoire, c'est aussi Alger. Et donc, ils ont leur lieu, et finalement, les choses qui ne les rassemblent pas n'ont peut-être pas autant d'importance. En tout cas, pas dans leur histoire d'amour.
Ça veut dire que c'est du superflu. Par exemple, Karim vient pour régler une affaire. On sait que l'affaire est importante, mais on ne parle pas de l'affaire.
Oui, on s'en fiche de l'affaire. C'est un prétexte, oui. C'est un prétexte.
Mais c'est un choix délibéré pour vous de dire on va pas noyer le lecteur sous des, détails
non,
qui sont...
Alors pas consciemment, parce que la ville de l'Est, à un moment je m'étais posé la question de me dire est-ce qu'il faudrait la nommer ou pas, et après je me suis dit bon, la ville de l'Est c'est joliment dit aussi, avec ce E majuscule un peu mystérieux.
Et cette maison sur la plage
près d'Alger ou dans la ville de l'Est?
Non, à côté la maison de la cousine.
Oui, oui. Pareil, qui pourrait être n'importe où. À l'ouest, à l'est, mais voilà, une maison nichée quelque part près de la plage où ils se retrouvent.
Bon, alors, votre livre, c'est une histoire d'amour algéroise, on peut dire ça ?
Oui.
D'accord. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un genre qui est codifié ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une histoire soit algéroise ? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une histoire algéroise ? Allez-y.
Bah, qu'elle se déroule à Alger.
D'accord, voilà. Ok. Mais après, pour le reste ?
Bah, je pense que ça suffit. Toute histoire qui se déroulerait à Alger serait une histoire algéroise.
Mais qu'est-ce que ça change ?
Logiquement, ça change pas grand-chose, à part il y a quelques complications. Ils doivent quand même se cacher un petit peu, mais c'est aussi dû au fait qu'ils soient mariés. Il y a une liberté qu'on aurait, par exemple, à Paris, qu'on n'aurait pas à Alger. Voilà, mais ça pourrait être une histoire oranaise aussi.
Et ce qui est marrant, quand j'ai lu votre livre et que je me balade avec vous dans Alger, je sens pas du tout le poids du regard des autres. Je sens pas du tout cette société quand même... observante quand même, et du qu'en dira-t-on, je sens pas du tout. J'ai l'impression que c'est une ville qui est quand même très libre, l'Alger de 2013 que vous décrivez. Elle fume dans la rue.
Alors non, elle fume pas dans la rue.
Enfin, elle fume en tout cas.
Ouais, elle fume.
Elle fume au balcon.
Voilà, alors parfois elle se cache pour fumer. Elle est à l'image un peu des contradictions de la ville, parce que parfois elle se cache, parfois elle s'en moque, c'est un peu au gré de ses humeurs. Et en fait, l'Alger qu'on voit dans le livre, c'est son Alger à elle. Donc elle se moque un peu du qu'en dira-t-on. Donc finalement, même s'il y a des regards ou des choses un peu lourdes autour d'elle, elle va pas forcément les voir. Et elle est très ambivalente, elle est très paradoxale, elle est un peu hypocrite aussi, donc parfois elle se cache, parfois non.
Non, mais c'est ça, et on n'a pas l'impression que... Bon, elle est quand même très libre finalement.
Oui, je pense
qu'elle est très loin d'une société quand même.
Alors elle est très libre. Sarah est très libre. Alger, je ne sais pas, mais Sarah en tout cas est très libre, et du coup elle a cette vision d'Alger. Elle se laisse pas faire, elle se laisse pas pourrir ou peser par le poids de la ville en tout cas.
Ce qui l'empêche pas de vivre sa vie finalement.
Voilà.
Elle va le rejoindre à l'hôtel par exemple.
Oui. Elle hésite, elle a un peu peur, mais elle y va quand même. Voilà. Malgré la peur, elle y va.
Elle roule avec lui en voiture la nuit.
Oui.
Ouais. Et il marche la nuit. Donc voilà, on a l'impression quand même que c'est
Après, ça, c'est des choses qui se font, hein, c'est, qui sont assez fréquentes, de rouler en voiture, en amoureux, de marcher, peut-être pas trop la nuit, mais c'est quand même des scènes qu'on retrouve assez fréquemment à Alger. Mmh. Mmh.
Et ça, c'est vraiment l'Alger que vous avez vécu, bah, c'était il n'y a même pas 10 ans en plus. Hein.
Non, c'était il n'y a pas 10 ans. Alors, c'est des choses que j'ai vues ou imaginées, ou en tout cas, c'est son Alger à elle. Mmh.
Mmh. Alors, on se promène dans Alger et on découvre. Enfin, mais en tout cas, ça a beaucoup surpris la presse. Les gens qui ont lu votre livre disent que finalement, c'est l'originalité, c'est que ça se passe à Alger.
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui ressort assez souvent dans les avis. Je pense qu'on n'a pas l'habitude que Alger est souvent associé à quelque chose de peut-être de négatif, qu'on l'associe souvent soit au terrorisme, soit à une dimension politique ou sociale. Et là, il y a quand même la légèreté un peu de l'histoire d'amour et peut-être qu'on a moins l'habitude. Je sais pas trop, hein, je pourrais pas être exhaustive sur ça, mais on a peut-être moins l'habitude, voilà, de décrire soit des scènes de la vie quotidienne totalement banales ou les histoires d'amour, il y en a partout. Et puis il y en a aussi en Algérie. Le quotidien, il n'est pas rythmé que par que par de la politique. Hein. C'est voilà, il y a des préoccupations très terre à terre, très.
D'ailleurs, la politique est complètement absente, par exemple, de votre.
Oui, c'est pas le sujet. Hein. Elle vit une histoire d'amour, donc elle se moque totalement de la politique à ce moment-là. Mmh. Mmh.
Les femmes, alors, je vous disais tout à l'heure, hein, elle vit avec donc sa grand-mère, sa mère. On a quand même l'impression que le personnage le plus libre des trois, c'est quand même la grand-mère.
Oui. Oui.
Qui est truculente.
Une grand-mère assez chouette, hein, pleine de peps. Mm. Mm. Et qui lui apporte aussi sa liberté à elle, qui la déculpabilise quand sa maman lui fait des remarques. Tu rentres trop tard, tu sors beaucoup, je ne sais pas avec qui tu sors. C'est la grand-mère qui la défend, donc elle a un peu... voilà, elle a quelqu'un qui est là pour elle.
Bon, ce n'est pas la grand-mère de Sophie Marceau dans La Boum, mais ça pourrait.
Ça pourrait, ça pourrait.
C'est ça, il y a un petit ouais, côté poupette.
Oui, ça pourrait.
Et en plus, comme elle a vieilli, elle se moque complètement des autres, finalement. Elle est complètement... Voilà, elle vit sa vie, la grand-mère. Mina Namous est notre invitée aujourd'hui et on parle de votre premier roman qu'on vous conseille, Amour extérieur nuit, chez Dalva Édition.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et on reçoit Mina Namous pour son premier roman, donc ça s'appelle Amour extérieur nuit, chez Dalva Édition. Alors un mot de votre éditeur, Dalva.
Alors, Dalva, c'est une maison d'édition qui a été créée en 2020 et une maison d'édition qui n'édite que des femmes, voilà, qui voulait donner la place, la parole et l'écrit aux femmes. Et leur slogan est très beau d'ailleurs, les femmes écrivent le monde.
Voilà, et donc vous êtes le premier, vous êtes la première éditée, enfin la autrice francophone.
Oui.
Voilà,
oui.
De cette maison d'édition.
C'est une première pour nous deux, pour Juliette Ponce et moi.
C'est qui Juliette Ponce ?
C'est la fondatrice des éditions Dalva.
Ah, je ne savais pas. Voilà. Donc, alors, comment ça s'est passé finalement ? Vous avez envoyé votre roman dans une enveloppe marron
Alors, c'était moins romanesque. Je lui ai envoyé par mail. et on s'est rencontrés, on a discuté. Puis
ça tout a suite, tout de suite. Ah oui, elle vous a rencontré tout de suite.
Oui.
Ouais.
On s'est rencontrés assez vite.
D'accord, bien. Et alors maintenant, vous voulez être auteur ou vous voulez rester juriste ?
Ah, je pense qu'on peut être les deux, autrice et juriste.
Bon, alors on parle de l'histoire de Sarah aujourd'hui, qui est votre héroïne. À quelle distance vous vous tenez, vous, de Sarah ?
Je l'ai créée de toutes pièces. Donc pendant longtemps, le temps de l'écriture, on a été proches, beaucoup pensé à elle. Je l'ai un peu façonnée. Je lui ai prêté certaines choses.
Mmh. Comme vous, elle est juriste un peu.
Alors non, elle n'est pas juriste.
Enfin, elle est secrétaire. Enfin...
Non, elle est dans le département finance de l'entreprise. Bon, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que peu importe son métier, ce n'est pas très important, dans l'histoire d'amour en tout cas. Et aujourd'hui, je la laisse aussi vivre sa vie. Et je laisse aussi les lecteurs s'approprier l'image qu'ils ont de Sarah. Mmh. Mmh.
Mais vous ne répondez pas à la question de la distance à laquelle vous en êtes.
Je l'aime bien, j'ai beaucoup d'amitié pour elle, beaucoup d'empathie, comme pour toute femme qui vit une histoire d'amour, qui est vulnérable. J'aime le fait que malgré la peur, elle y aille, qu'elle soit libre malgré tout. Donc je l'admire aussi pour ça. Je pense que c'est une femme admirable.
Alors, on suit leur histoire, hein. Ils se rencontrent en février, mais après, en gros, c'est sur 18 mois. Ils sortent beaucoup, c'est pour ça que c'est extérieur nuit, hein. Ils sortent beaucoup, ils roulent beaucoup, ils se baladent beaucoup dans Alger la nuit, et vous nous emmenez aussi dans les coulisses de d'Alger la nuit. En 2013, les soirées de Ramadan à Alger, c'était quoi ? C'était la fête, comme vous le décrivez dans votre livre ?
C'était la fête, c'était encore la fête. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Bon, je pense qu'avec le Covid, c'est moins la fête, malheureusement. Mais en 2013, c'était encore la fête. Voilà, c'est un mouvement qui est né quelques années avant, hein, qui n'était pas nouveau à ce moment-là. Où, en effet, les soirées ramadanesques, c'était presque du clubbing. Donc, c'est très drôle, c'est très festif. Voilà. Moi, j'avais découvert ça un peu plus tôt et je voulais relater aussi un peu cette atmosphère très originale.
C'est-à-dire que les gens s'habillent pour sortir.
Les gens s'habillent pour sortir. Les gens sortent juste après dîner, s'habillent, dansent, chantent. Il y a différentes ambiances et tout. C'est plutôt marrant. Et donc, lui, Karim, qui a quitté Alger bien avant, est surpris par cette ambiance.
Ouais. Et moi, c'est une ambiance que je connaissais pas du tout, d'ailleurs.
Alors,
je pensais qu'on jouait au domino la nuit et que tout le monde était sur son ordinateur.
Je pense qu'il y a encore des gens qui le font. Il y a un petit mix de différentes ambiances, mais il y a en effet ce côté clubbing très très jovial, très sympa, hein. Pas très ramadanesque du coup, mais qui est marrant. Et je saurais pas vous dire si ça existe encore.
Bon, quand on vient à Alger, qu'on veut un bon hôtel, est-ce qu'on a toujours le choix entre l'Horaci, le climatiseur? Et le Saint-Georges, parce que j'ai l'impression que depuis 30 ans, c'est ce qu'on nous donne. Il n'y a pas d'autres hôtels encore ?
Ah ben ça, je ne sais pas. En tout cas, lui, quand il vient, on parle de ces hôtels-là parce que lui est envoyé par son entreprise. Donc forcément, ils le mettent dans des beaux hôtels. Et voilà, d'où le choix de ces hôtels-là. Puis des hôtels un peu phares d'Alger aussi, qui sont bien situés, qui ont des belles vues.
D'accord.
Voilà, il ne va pas aller n'importe où non plus.
Hein. Mais il n'y a pas des boutiques hôtels à Alger
Ça, j'en sais rien. Ça, je peux pas
savoir.
Quand on habite une ville, on ne connaît pas en général les hôtels.
Bah, on sait où les gens sortent, où ils vont boire des verres, où ils se retrouvent. Le Sheraton. Ah, le Sheraton, on nous dit le Sheraton.
Bah, lui, oui, il va à l'Oasis, au Saint-Georges. Voilà. Il ne choisit pas non plus, hein. C'est sa boîte qui choisit pour lui. Et elle le suit, du coup. C'est un peu exotique pour elle aussi.
C'est comme les restaurants, parce que, par exemple, je pense qu'il y a encore des guides qui devraient être faits sur Alger pour les gens qui voudraient partir en week-end, parce que pour l'instant, on manque quand même beaucoup d'adresses. Même lui, il l'emmène dans des restaurants, mais ça, ça tient beaucoup plus du restaurant clandestin que du restaurant qui a pignon sur rue, non ?
Aussi, et lui, il aime bien ça, il aime bien ce côté, quand il vient à Alger, c'est pas pour dîner au Sheraton, par exemple, il aime bien ce côté un peu clandestin, un peu caché, qui pour lui est exotique. Et parfois, c'est lui qui connaît les lieux et pas elle. Donc,
Alors que lui ne vit pas à Alger.
Lui ne vit pas à Alger, mais voilà, il lui a vécu, et puis lui, il est encore dans ses souvenirs, et puis dans ses fantasmes aussi d'Alger un peu, peut-être un peu oublié. Donc, chacun, à leur manière, découvre ensemble.
Lui, par exemple, Karim, il est nostalgique d'un Alger, mais d'un Alger des années 70. Mais il n'est pas si vieux que ça, pourtant.
Non, il n'est pas si vieux que ça, mais...
Pourquoi est-ce qu'il est nostalgique de cette époque qu'il n'a pas connue ?
Ah ça, c'est toute la question d'être nostalgique de périodes qu'on n'a pas connues. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Et elle aussi, quelque part, elle est nostalgique de ce qu'on raconte, d'une Alger insouciante, d'une Alger avant les années de terrorisme. Ou en tout cas, qu'on décrit comme insouciante, qu'il n'était peut-être pas. Mais aucun d'eux ne le sait. Mais chacun veut se raccrocher à cette image d'une certaine liberté. Et c'est peut-être l'Alger que leur ont raconté leurs parents ou grands-parents ou des amis un peu plus âgés. Et il se raccroche à ça. N'ayant jamais connu ça, ni l'un ni l'autre, lui peut-être un tout petit peu dans son enfance, mais il s'y accroche, peut-être en espérant la retrouver un jour.
C'était quoi cet Alger?
Je ne l'ai pas connu non plus.
Non, mais...
C'était peut-être une Alger sans peur de mourir, déjà. Sans peur aussi peut-être du jugement de l'autre, sans islamisme, sans conservatisme.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a le regard croisé. Il y a le regard de ceux qui vivent à Alger et qui ne le quittent pas, mais à qui on demande toujours « tu ne devrais pas vivre à Paris ». Et puis, il y a le regard de ceux qui vivent à Paris, qui ont quitté Alger, qui, quand ils y reviennent, disent « oh là là, qu'est-ce que ça me manque », mais qui ne pourraient pas y vivre, finalement.
Oui. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont partis, à qui ça manque terriblement, qui sont extrêmement nostalgiques. Mais voilà, pour qui, pour des raisons très pratiques, ne pourrait pas y vivre, comme vous dites. Et,
pourquoi pratique ?
Il y a cette question de liberté aussi, peut-être, et il y a des conditions financières aussi. Par exemple, c'est difficile de se loger seul à Alger au vu du prix du logement. C'est quelque chose de très concret, de très bête, hein, quand on y pense, mais c'est difficile de se loger seul. Vous avez pas mal de contraintes, difficulté peut-être de trouver un travail, d'avoir une vie à soi aussi. C'est des vies qui sont quand même très, très dans le collectif, très communautaire, donc... Si vous n'êtes pas marié, c'est difficile de vivre seul. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que voilà, il y a une liberté que vous pouvez trouver dans d'autres pays et pas encore en Algérie. En tout cas, pas pour tout le monde, je pense. Voilà. Il y a des personnes qui sont en accommode, qui sont très bien. Il y a des personnes qui y arrivent. Mais la majorité, c'est vrai, des gens qui sont partis ne reviennent pas.
Alors, il n'y a pas beaucoup de musique dans votre livre. Beaucoup de lieux.
Oui.
Mais il n'y a pas de bande originale.
Non, c'est vrai.
Pourquoi ? Est-ce que vous avez, vous, une chanson qui vous ramène à ces années 2010-2013, ces années que vous avez passées à Alger ?
Non, même pas. Vous me prenez un peu de cours, là. Même pas. Je pense qu'il y a une chanson qui est citée dans le livre, mais c'était pour le décrire lui, une chanson de Sinatra.
Oui, mais qui n'est pas algéroise. Qui n'est pas algéroise.
Non, qui n'est pas algéroise. Non, elle n'est pas portée sur la musique, en tout cas.
Même quand ils sont en voiture, ils n'écoutent pas la musique, vous voyez.
Non, je pense qu'ils mettent la radio parfois, mais ils s'écoutent surtout eux-mêmes. En fait, elle est totalement obsédée par lui, hein, donc le reste ne compte pas beaucoup. Elle ne parle pas non plus de livres, elle parle de films, alors elle dit qu'elle achète des DVD, tout ça, mais en fait, pendant deux ans...
Qu'est-ce qu'elle achète comme DVD, puisqu'elle elle fait des soirées... Elle fait des soirées dans sa chambre où elle regarde des DVD.
Oui, bah comme beaucoup d'Algériens.
Mais qu'est-ce qu'on regarde quand on est en Algérie ? On regarde des films français ? On regarde des films indiens ?
Américains, je pense qu'on regarde beaucoup de séries et de films américains. Je ne sais pas ce qu'elle regarde, en fait. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle regarde. Elle rêvasse beaucoup, elle le dit. Elle fixe le plafond, voilà. Mais tout tourne autour de lui, donc en fait le reste n'a pas d'importance. Ce qui est extérieur n'a pas d'importance. Pendant deux ans, tout va tourner autour de lui.
De sa voix et de sa peau.
C'est ça.
Bon, on va écouter, on va partir. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas grave, de sa voix et sa peau jusqu'à l'embrun.
Si ça choque pas le stagiaire, c'est pas grave.
Non, voilà. Non, il faut dire qu'on a un stagiaire avec nous, alors c'est vrai que, voilà. J'ai eu peur. Non, elle est séduite par sa voix.
Elle est séduite par sa voix. Ah, vous faites la grimace.
Non, je dis mon œil.
Bah pourquoi ?
Non, c'est vrai ?
Oui, elle est séduite par sa voix. La voix est très importante. Je pense que c'est la première chose qui la marque.
Et après, c'est sa peau.
Pourquoi mon œil ?
Est-ce que c'est suffisant ? Enfin, vous me direz, elle a le son et l'image.
Oui.
Parce que souvent, une voix, c'est trompeur.
Alors oui, elle a l'image. En fait, c'est un tout. Il y a sa voix, il y a sa peau, il y a son odeur aussi. Elle parle beaucoup de son parfum.
Son odeur, ouais.
C'est tout, hein. C'est l'homme qui l'a séduit, l'homme dans son ensemble. Donc, peut-être que d'autres, sa voix leur est complètement indifférente. D'ailleurs, ses collègues se moquent de lui. Ses collègues à elle ne le supportent pas. Donc voilà, elle par contre,
il se la pète un peu,
mais voilà. Mais en tout cas, elle le perçoit pas comme ça. Ou alors, elle va au-delà de ça.
Bon, je voulais vous faire écouter Lily Boniche, comme ça on va pouvoir écouter Alger, une chanson qui a été reprise et puis une chanson qui parle tellement bien de la ville blanche.
تفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي من وحش لحباب هاجوا فكاري مشعل ناري وين راكم يا ولدي تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حن علي j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي كوم الجيري كوم لبان ونحبها في لهبان فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك اولا بلانش قلبي بلان دو تريستيس ما ينساكش ان روفانش وي تو بلاس دي غوفيرنمون مع مرب حبابي لو نكون غريب بلان دو تومون غير نتفكرها جو سوغي جام توت لي فيل ان بو بلوس باري لكن ماشي كوم الجيري كوم لبان ونحبها في لهبان فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها كومون فولي
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et on parle d'un premier roman aujourd'hui, qui s'appelle « Amour extérieur nuit », chez Dalva Éditions, et son auteur est avec nous, Mina Namous. Donc l'histoire de Karim et Sarah, on nous demande comment ils se rencontrent, tous les deux.
Ils se rencontrent dans le cadre professionnel, pendant une réunion. Donc lui est un avocat d'affaires qui vit en France et qui vit en Algérie pour le travail. Et elle, donc, vit à Alger et travaille pour cette entreprise, et ils se rencontrent un matin pendant une réunion.
Et il la calcule ou il la calcule pas?
Alors au début, en tout cas, on pense qu'il ne la calcule pas. Mais finalement, on sait après qu'il la calcule.
C'est de la stratégie.
C'est de la stratégie.
Ouais.
Ou une posture, en tout cas. Et elle, elle a un coup de foudre assez immédiat.
À un moment donné, elle dit que c'est une histoire un peu moche, mais grandiose.
Oui.
Pourquoi c'est une histoire un peu moche?
C'est une histoire qui peut paraître un peu moche... Si on prend les critères extérieurs, le fait qu'ils soient mariés, c'est surtout ça en fait, et que ça soit clandestin, que voilà. Et puis entre eux, il n'y a pas énormément de mots d'amour, il y a pas, voilà, c'est ça reste.
Oui, ça c'est courtois. Hein.
C'est courtois, voilà. Et mais bon, et qui au final est grandiose de par les sentiments que chacun ressent. Et,
D'ailleurs, on sait ce qu'elle pense elle, mais on sait beaucoup moins ce qu'il pense lui. C'est plus un roman qui est tourné de son point de vue à elle.
Oui, c'est elle qui le... Enfin, c'est au jeu. Donc, c'est, on a uniquement le prisme de Sarah.
Alors, vous allez nous lire un extrait. C'est vous qui avez choisi. Hein.
Et ben justement, c'est celui qui parle de cette histoire moche
Ah ben voilà. Ah voilà, on est tombé dessus.
Voilà. Alors, page 137.
C'est pour ceux qu'on le livre que vous dites ça.
Oui.
C'est pour suivre.
Achetez-le.
Voilà. Donc, vous le montrez à la caméra parce qu'on filme l'émission.
Là, comme ça.
Je ne l'ai pas lâché, hein. Faut dire que votre livre, je l'ai lu d'une traite. Non. Je ne l'ai pas lâché et voilà. Alors on y va.
On y va. Karim n'est pas un homme marié et il n'y a pas d'autre femme. Il n'y a que lui et moi, nos pas dans la nuit, les regards échangés, les messages complices et les éclats de rire enfouis. Il n'y a que sa silhouette qui se déplace doucement et que je suis religieusement. Il n'y a que les petites ruelles d'Alger qui nous encapsulent et que nous avons fini par connaître par cœur à force d'y chercher une place. Ce n'est pas une aventure, ou alors c'est la plus belle des aventures, comme les plus beaux voyages. C'est la montagne qu'on devine et la mer à perte de vue, partout. C'est la ville et ses souffles coupés. Ce sont les escaliers qui ne mènent à rien et les couloirs secrets. C'est un voyage qu'on ne pourrait pas prendre en photo, aucune image ne lui serait fidèle. C'est une succession de souvenirs qui forment une bulle invincible qui est venue se loger à l'intérieur de nous. Nous avons des témoins, tous ceux que l'on croise lorsqu'on marche ensemble, vite ou lentement. Tout cela nous dévisage, il ne laisse rien. Certains se retournent sur nous. Qu'est-ce qu'on fait là, si tard dans la nuit? Qu'est-ce qu'on fait là chaque jeudi, chaque vendredi, autour de ces tables? Nous avons aussi des complices, les patrons des restaurants, les serveurs, les gardiens de parking, les enfants qui jouent autour des immeubles, les jeunes garçons qui y fument, les gendarmes qui nous laissent toujours passer. Et puis nous avons notre gardienne, l'Alger du jour et de la nuit, qui mue au gré des heures et des quartiers, qui sent mauvais, qui n'est pas nette, qui va mourir par endroits, et qui semble tout refermer dans un étau. L'Alger visible et invisible, l'Alger magique, qui peut se transformer en une fraction de seconde, du Léo sublime et inversement, un peu comme ses habitants. C'est tout cela que je devrais dire à ma grand-mère, que je vis une histoire un peu moche, mais grandiose.
Est-ce que Alger change de couleur quand on est amoureux?
Bien sûr, tout change de couleur quand on est amoureux. Toutes les villes changent de couleur.
Et Alger ne prend pas une couleur particulière?
Pour Sarah, si, et pour Karim certainement aussi. Le ciel est plus rose et plus orange. Et dans les moments où ça va mal, il est plus sombre. Donc tout change. Elle y voit plus clair.
Qu'est-ce qui vous a inspiré l'histoire derrière la boussole familiale?
J'aime bien cette idée que des petits objets qui peuvent paraître anodins dans des maisons familiales en plus puissent cacher ou receler ou en tout cas faire écho à des souvenirs un peu secrets.
Mais qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Quelque chose de particulier ou c'est quelque chose qui sort de votre
imagination? Ah non, c'est totalement de l'imagination. Totalement de l'imagination, oui. Totalement de l'imagination.
Oui.
Oui.
Pas une histoire algérienne qu'on vous a racontée et que vous avez peut-être...
Non, même pas. Après, je pense que c'est des histoires qui existent. Hein. C'est des choses qui finissent parfois par se savoir, qui existent. Et qui sont aussi symptomatiques des familles où il y a beaucoup de filles. Qui paraissent comme ça très lisses en apparence. Et puis, il y a toujours des choses qui se cachent et qui font écho à l'histoire des mères, parfois. La grand-mère dans l'histoire
de cette boussole... On ne va pas spoiler.
L'histoire de cette boussole, la grand-mère, à un moment, dit une phrase qui fait écho à l'histoire de ses propres filles et que les petites filles... Finalement, il y a des transmissions générationnelles comme ça, toujours dans le secret, dans le non-dit, mais bon...
Bon, vous avez des adresses de coiffeurs qui sont ouverts à 7h du matin à Alger?
Partout, je pense que tous les coiffeurs sont ouverts à 7h du matin.
Non mais c'est vrai? C'est sérieuse?
Non, je pense qu'il y en a beaucoup, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens qui vont faire leur brushing à 7h du matin, comme moi aujourd'hui.
À Alger?
À Alger, oui.
Ouais, mais vous, c'est réussi.
Merci.
Voilà, vous avez vraiment
fait... Mais la plupart
fait
des coiffeurs...
Votre brushing de radio est magnifique. 7h du matin à Alger?
Oui, 7h du matin à Alger, oui. Ouais.
C'est une tradition?
Tradition, peut-être c'est un grand mot, mais en tout cas c'est une pratique, oui. C'est aussi, Alger a l'image aussi du monde arabe, c'est aussi, il y a beaucoup de paraître, hein, les femmes sont toujours bien coiffées, bien maquillées, bien habillées, voilà, il y a ce côté très coquet. Ça se dit, oui, très coquet qu'on retrouve chez les femmes, chez les hommes aussi, hein, les gens sont bien mis en général, oui.
Enfin, 7h du matin, ça fait quand même...
Quand vous devez aller travailler à 8h, vous pouvez faire 7h, 7h30, un petit brushing rapidement avant d'aller travailler.
C'est quoi votre définition à vous d'un amour impossible?
D'un amour impossible? Ouais. Alors, celui du livre n'est pas impossible en tout cas, puisqu'il se vit. Voilà.
Mais jusqu'à un certain point.
Oui, mais il se vit tout de même. Voilà. C'est pas parce qu'une histoire d'amour se termine ou pas qu'elle est.
Ou pas, ouais, voilà,
qu'elle n'en est pas moins une histoire d'amour. Ma définition d'un amour impossible. Je pense que ce serait un amour que la personne ne veut finalement pas vivre. Parce que quand on veut vivre quelque chose, que les deux le veulent, en tout cas, tout est possible.
Si vous êtes Sarah et que je viens vous voir à Alger. Vous m'emmenez où pour voir le Alger incroyable?
Alors, si j'étais Sarah, je vous aurais emmené...
Qu'est-ce que c'est le circuit qu'on va faire?
Le circuit qu'on va faire, elle l'emmène... je vous emmènerai rue Burdeau. Comme ça, vous découvriez les restaurants que Karim...
Clandestin.
Clandestin.
Voilà.
Où il faut toquer avant.
Ça, j'aime bien. J'adore l'idée.
Voilà, rue Burdeau.
Et quoi d'autre?
Ben, je vous emmènerai à Chéraga, comme ça vous verriez aussi l'extérieur d'Alger, qu'on voit moins dans les livres et dans les films, qui est très très joli, pas du tout accidenté, pas du tout cassé de partout. Vous pourriez acheter un DVD dans un magasin de DVD, on ferait le tour d'un rond-point, ce serait chouette. Hein.
Des vrais DVD, hein. pas des copies. Hein.
Ah ben non, forcément piraté, forcément.
Je suis sûr qu'il y a encore des cassettes.
Non, il n'y a plus de cassettes, mais il y a des DVD piratés. Et heureusement qu'il y en a, parce que sinon vous n'avez pas accès à tous les films qui sortent.
Bon, vous m'emmenez dans les jardins du Saint-Georges ou pas?
Bah non, c'est trop cliché.
C'est cliché, ouais. Ouais.
Je vous emmènerai dans des endroits un peu moches, mais grandioses.
Mais les jardins d'essai, je veux bien voir quand même.
Le jardin d'essai, ouais. Oui, on pourrait aller au jardin d'essai.
Ça, ça me va. Oui, ouais, parce que c'est quand même impressionnant avec des arbres qu'on ne trouve pas partout quand même. Oui. Donc, ils ont été bien rénovés, bien restaurés.
Je vous emmènerai dans la ville de l'Est, qui pourrait être n'importe quelle ville.
Ça dépend. Il y a des ponts suspendus ou pas?
Possible. Mais celle dont vous parlez n'est pas celle du livre.
D'accord. Parce que si c'est une ville avec des ponts suspendus, je veux bien voir.
Il faut qu'il y ait la mer, surtout.
Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait la mer. Donc c'est vrai que sur les ponts suspendus, il y a le Rumel, mais il n'y a pas la mer.
Il n'y a pas la mer.
Bon, vous dites que vous voulez faire de la promo.
Oui. Le 8 février, je serai à la Maison de la Poésie pour une lecture d'extrait du livre. Avec un musicien assez chouette qui joue de la viole d'amour, qui s'appelle Jasser Haj Youssef, un musicien tunisien. Donc le 8 février à partir de 20h.
D'accord.
Voilà, si vous voulez venir, si le stagiaire veut venir, si madame veut venir, si les auditeurs veulent venir, avec plaisir.
Avec plaisir, et puis c'est bien, c'est bien, ça c'est des vrais moments.
Ah, oui, je pense que ce serait un bon moment en musique, en plus vous qui aimez la musique.
Ah ouais.
Voilà. Alors il n'y a pas de musique dans le livre, mais il y aura de la musique ce soir-là.
Bon.
Donc, 8 février à 20h.
C'est où
à la Maison de la Poésie, je crois que c'est dans le 3e arrondissement. Un peu loin d'ici, peut-être.
Bon, vous venez avec vos masques. Hein.
Oui, soirée masquée.
FFP2, hein, pour tout le monde. Bien, en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer, parce que c'est votre premier livre. Moi, j'aime bien pouvoir suivre les auteurs sur tous leurs livres, donc vous êtes la bienvenue aujourd'hui. Je rappelle que votre livre s'appelle « Amour extérieur nuit », montrez-le à la caméra, à ce qui filme l'émission. Nina Namou, c'était votre premier book club. Merci d'avoir été avec nous sur
l'ORFM.
Merci
beaucoup.
Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast et puis vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube et passer un très bon dimanche sur l'ORFM.
Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur l'ORFM.